Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Shvurot, page 42, Daf Membet. Bonne écoute et bon limoud.
Et chaque cave avait une valeur de 6 zouz. Donc puisque je t'ai rendu 6 caves, où chaque cave avait une valeur de 6 zouz, donc je t'ai rendu 600 zouz. Donc je t'ai déjà rendu ma dette. Alors Marley, le prêteur lui a dit, lave, be'arba, arba, vous caimez. N'était-il pas à 4 zouz, le cave? Et donc toi, c'est vrai que tu m'as rendu 100 caves. Mais chaque cave ne valait pas 6 zouz, mais 4 zouz. Donc tu m'as rendu que 400 zouz, donc tu me dois encore 200. Alors il y a une discussion combien il valait ce cave, et donc est-ce qu'il lui doit de l'argent encore ou pas. À toute tressade, sont venus de témoins, ve'am, où ils ont dit, in be'arba, vous caimez. En effet, c'est le cave, il était à 4 zouz. Et donc, cette personne lui doit encore 200 zouz. Alors, Rava nous dit, ce prêteur, Urza Kafra, nous avons maintenant, il s'avère que c'est un menteur, et nous avons la certitude que cette personne, à partir de maintenant, nous considérons cette personne comme un menteur. Alors, Rami Bachama lui a demandé à Rava, Mart, mais toi-même tu as dit, dans l'histoire d'avant que nous avons vue hier, Kol milta de lor ami ale deinish, lavadaate. Chaque chose qu'un homme n'est pas obligé de faire, il a fait sans s'en rendre compte. Et donc ici, automatiquement, lui, lui a rendu les 100 caves. Il croyait que c'était à 6, mais il n'a pas fait attention si c'était à 6 ou à 4. Et donc, nous n'avons pas une certitude que c'est un menteur, mais nous pouvons dire qu'il n'a pas fait attention. Pourquoi le considérons-nous comme un menteur? Azamale Rava lui a dit, Katsuta de Tara, Midkar de Kire Inche. À combien le tarif a été fixé, les gens se rappellent. Et donc ici, s'il a dit, chaque cave valait 6, et en fait, il valait 4, il s'avère que c'est un menteur. Parce que la fixation, à combien le tarif a été fixé, nous disons que c'est sûr qu'il se rappelle. Maintenant, la Gemara apporte une autre histoire. Aouda Amar Lechavé, quelqu'un qui a dit à son ami, Avli me azouze de masik nabach, donne-moi les 100 zouz que tu me dois. Viach tara, et voici le contrat, une redevance de dette que tu me dois cette somme. Amar lui a répondu, paraticha, non, je t'ai déjà payé. Alors le prêteur lui a dit, Anus itraininus, ce que tu m'as payé, c'était sur une autre dette que tu m'as payé. C'est pas sur cette dette-là. Azamar Rab Nachman nous dit, Itra shtar. Dans un cas pareil, nous disons que la force du shtar, la force du contrat, a été abîmée. Parce que lui-même avoue avoir reçu un paiement. Et donc maintenant, nous disons que le paiement qui a été reçu, c'est par rapport à la dette que nous voyons qui est ici. Maintenant, ce prêteur dit qu'il y a une autre dette. Sur cela, il n'a aucune preuve. Rav Papa nous dit, le contrat n'a pas été abîmé, et nous le croyons qu'il y a une autre dette, et donc ce qu'il a reçu, c'était sur l'autre dette, et donc l'emprunteur est encore redevable de cette dette qui est écrite sur ce contrat, sur cette redevance de dette. La Gemara demande, où le Rav Papa, et d'après Rav Papa, Maishna, quelle différence y a-t-il entre cette autre histoire? Maouda Amar Lechavre, quelqu'un qui a dit à son ami, Havli Meazouz et Demasik Nabar, donne-moi les 100 zouz que tu me dois. Ve'ashtara, et voici le contrat. Alors, l'ami lui a répondu, Amar le lavatore yaftli, ne m'as-tu pas donné cet argent pour que j'achète des taureaux et que je leur fasse la shrita et que je vende la viande et qu'il y ait des revachim, c'est-à-dire qu'il y ait des bénéfices et qu'on partage dans les bénéfices. Ve'atit, et je suis venu. Ve'itivta amasarta, et je suis arrivé et je me suis mis à la boucherie. Ve'kabil zozar, et toi tu as reçu ton argent, c'est-à-dire quand j'ai vendu la viande, tu as reçu ton argent de retour, les 100 zouz que je t'ai prêté. Et alors le prêteur les 100 zouz que je t'ai emprunté. Et le prêteur lui a dit, à nous, ces 100 zouz que tu m'as rendu, si traînez-nous, c'est sur une autre dette que tu me devais. Mais maintenant, je veux que tu me rendes les 100 zouz de cette dette que je te réclame. Alors Rav Papa lui a dit, itrashtara, dans un cas pareil, itrashtara, le contrat a été abîmé. C'est-à-dire que puisqu'il avoue avoir reçu un paiement, alors nous disons que le paiement qu'il a reçu, c'est sur cette dette qui est écrite dans le contrat, et donc il ne peut pas dire qu'il y avait une autre dette. Pourquoi? Alors, nous voyons ici que Rav Papa dit explicitement, « Itrashtara, le contrat a été abîmé, le contrat n'a plus sa force. » Par contre, plus haut, Rav Papa n'a dit que le contrat gardait quand même sa force. Rav nous dit, « Atam, kevande kamaratori aftli, umeture shakat, itrashtara. » Là-bas, puisqu'il dit, c'est vrai que je t'ai prêté de l'argent pour aller acheter des taureaux et pour avoir du bénéfice sur ces taureaux. Et il dit, j'ai reçu l'argent que tu m'as remboursé des taureaux. Alors, nous voyons ici que nous parlons que seulement d'un prêt pour aller acheter des taureaux. Et il a reçu de l'argent des bénéfices des taureaux. Donc, dans un cas pareil, nous disons le contrat est abîmé, le contrat a perdu de sa force. Parce que ce n'est pas logique de dire qu'il y a une autre dette. Aval Acham, mais par contre, chez nous, et Mositraen, nous, tu peux dire très bien qu'il y a une autre dette, parce que ce qu'il y a prêté, il n'y a pas écrit de raison spécifique pour laquelle il lui a prêté. Il a dit, je t'ai prêté de l'argent. Et là, il lui dit, je t'ai rendu. Et à ce moment-là, le prêteur lui dit, non, c'est vrai que tu m'as rendu, mais c'était sur une autre dette. Et c'est plus logique de croire le prêteur, car si l'emprunteur avait rendu de l'argent sur la dette sur laquelle le contrat est écrit, alors pourquoi n'a-t-il pas récupéré son contrat? Agmara demande, Maya avait allé. Alors, qu'en sera-t-il maintenant de cette histoire? Est-ce que le contrat a perdu de sa force ou pas? Alors, Rav Papi Amar, Loitrashtar. Rav Papi nous dit, le contrat n'a pas perdu de sa force. Rav Sheshet Verede Ravedi Amar, Rav Sheshet le fils de Ravedi a dit, Itrashtar, le contrat a perdu de sa force. Et donc, il ne peut pas récupérer une deuxième fois sa dette. Veicheta, et la loi était fixée, Itrashtar, le contrat a perdu de sa force. Veanemile, Deparebe Apresade. Et de quoi parlons-nous seulement d'un cas où il a payé devant deux témoins? Veloit Karlishtari. Et il ne s'est pas rappelé de récupérer le contrat. Aval, pare ben didelediem. Par contre, s'il a payé entre lui, c'est-à-dire le prêteur et l'emprunteur, l'emprunteur a remboursé au prêteur sans, pas devant des témoins. Alors, migode achol et memar loyot verimolam. Puisque l'emprunteur a la possibilité de dire, je n'ai jamais rien reçu de toi, puisqu'il n'y a pas de témoin là-dessus. Alors, on le croit lorsqu'il dit que ça vient d'une autre dette. Et c'est-à-dire, l'Agmara nous dit que la loi était fixée que le contrat a perdu de sa valeur, le contrat a perdu de sa force, et donc maintenant, ce prêteur ne peut pas récupérer sa dette, et on ne le croit pas lorsqu'il dit que cet argent qu'il a reçu, ça vient d'une autre dette. Alors, l'Agmara nous dit, dans quel cas nous parlons dans un cas pareil? Seulement dans un cas où l'emprunteur a payé au prêteur devant des témoins, mais il a oublié de récupérer son contrat. Car dans un cas pareil, le prêteur ne peut pas nier avoir reçu récupérer sa dette. Par contre, si l'emprunteur a remboursé au prêteur, pas devant des témoins, entre eux, c'est-à-dire l'emprunteur a remboursé au prêteur entre lui. Alors il y en a un qui nous dit migo, c'est-à-dire c'est une logique qui nous dit que si quelqu'un veut mentir, alors il dit, le meilleur raisonnement, la chose dans laquelle il est le plus cru, et dans la chose laquelle il va le gagner le plus facilement possible. Et donc maintenant, si cette personne, cet emprunteur, aurait voulu mentir, alors il aurait pu dire, « Laïud varim olam, je n'ai jamais rien reçu de toi. » Et le prêteur n'aurait pas pu prouver, puisque nous avons parlé dans un cas où l'emprunteur n'a pas payé devant le témoin. Donc l'emprunteur n'aurait pas pu prouver qu'il a payé. Et donc le prêteur aurait pu dire, « Laïud varim olam, s'il avait voulu mentir. » Et maintenant, puisqu'il a dit Sitrae Ninou, il a dit oui, c'est vrai que tu m'as payé, mais c'était d'une autre dette, que tu me devais d'une autre dette. Alors à ce moment-là, nous le croyons et nous disons que c'est pas un menteur. Parce que s'il avait voulu mentir, il aurait pu dire un meilleur mensonge. Et donc, nous le croyons. Ou que d'Aviemi Bede Rabbaou, et comme l'histoire qui s'est passée avec Aviemi, le fils de Rabbaou, où il y a une histoire pareille, et Aviemi Bede Rabbaou a cru le prêteur. Donc, moi, rapporte maintenant une autre histoire. Aoude Amal et Khabri, quelqu'un qui a dit à son ami. Mais mantli, kolemadamartli, loparana. Je te croirai et je te ferai confiance chaque fois que tu me diras je ne t'ai pas payé. C'est-à-dire, je t'emprunte de l'argent et tant que tu me diras je ne t'ai pas payé, je te crois à 100% et je devrais te payer. Azal, parebe apesade. Mais non, cet emprunteur est parti et a remboursé sa dette devant deux témoins. Alors, Abaye, et maintenant, ce qui se passe, c'est que l'emprunteur réclame encore une fois sa dette. Alors, Abaye, Rabaye nous dit, arrête, il a cru, il lui a fait confiance, il lui a dit, chaque fois que tu me réclameras cette dette, je devrais te payer. Donc maintenant, même s'il a payé devant deux témoins, si l'emprunteur lui réclame à nouveau la dette, il sera obligé de la payer une nouvelle fois. Matkifla Rav Papa, alors Rav Papa demande, Neidem, ne, c'est vrai qu'il a cru, te fait minarcher plus que lui-même. C'est-à-dire, il a dit, s'il y a une discussion entre nous deux, alors on te croira toi, mais pas moi. Aval te fait, mais ça a démené. Mais lui a-t-il fait confiance plus que de témoins? C'est sûr que non. Et donc maintenant, puisqu'il a payé devant de témoins, il a fait exprès de payer devant de témoins pour signifier au prêteur, sache que maintenant je te paye devant de témoins, et si tu me réclameras sa dette, je t'amènerai de témoins pour dire que je t'ai déjà payé. Et donc, d'après ce que pense Rav Papa, il ne sera pas obligé de payer une deuxième fois sa dette. La Gemara amène maintenant une autre histoire. Aouda Amal el-Kharwe, quelqu'un qui a dit son ami, mais mantli ke beitre. Je te fais confiance, comme je fais confiance à deux témoins. Kolema damar lo parana. Chaque fois que tu me diras, tu ne m'as pas payé et donc je n'ai pas reçu ma dette. C'est-à-dire, il lui fait confiance comme si deux témoins témoignaient qu'il n'a pas encore payé. Mais donc, ce qu'il a fait, cet emprunteur, azal pare be abetlata. Il est parti, il a payé au prêteur, il a remboursé la dette devant trois témoins. Alors, Rav Papa dit, kebetremne, kebetlata laine. Il lui a fait confiance comme deux personnes, mais comme trois personnes, il ne lui a pas fait confiance. Et donc maintenant ici, puisqu'il a payé devant trois personnes, alors c'est vrai que l'emprunteur réclame sa dette, mais l'emprunteur a une force de deux témoins, c'est vrai. Par contre, il y a trois témoins qui sont contre l'emprunteur et qui disent qu'il a déjà remboursé. Donc trois contre deux, c'est sûr que nous croyons les trois. Et donc il ne sera pas obligé de payer une nouvelle fois. Alors Amar le Rabuna ber de Rabbi Yoshua, Rabuna le fils de Rabbi Yoshua, posa une question à Rav Papa, le Rav Papa. Imur d'Amri Rabbanan de Azilan Batarov de Hot. Quand c'est que Rabbanan ont dit que l'on va d'après la majorité des gens, la majorité des personnes qui sont là et la majorité de ce que pensent les personnes, Anemile Leolian Umdena. Tout ce que c'est à propos des évaluations. Des kama de nefiché, où nous disons plus il y a de personnes, mais qui est fait. Alors les gens connaissent mieux, c'est-à-dire plus il y a de personnes, alors c'est plus logique qu'on sache à peu près combien ça vaut. C'est-à-dire lorsqu'on, par exemple, on veut évaluer combien vaut un terrain, si tu amènes une personne, tu as un seul avis, si tu amènes 10 personnes, tu as 10 avis. C'est plus logique quand il y en a 10 avis, alors tu vas d'après la majorité des avis qu'il y a, et c'est plus logique qu'on arrive le plus proche du vrai prix. Aval, il n'y en a doute, mais à propos d'un témoignage, il y a une règle qui nous dit, mea ketre, vetre kemea. 100 témoins ont la force de 2 témoins, et 2 témoins ont la force de 100 témoins. C'est-à-dire, nous ne croyons pas plus 100 témoins que 2 témoins. Si par exemple 2 témoins témoignent une chose, et 100 témoins les contredisent, nous ne croyons pas plus les 100 que les 2. C'est-à-dire, les 2 ont la même force. Et donc, nous sommes obligés de dire que puisqu'il a cru ici, l'emprunteur a fait confiance au prêteur comme 2 témoins. Alors, c'est vrai que lorsqu'il a remboursé devant 3 témoins, c'est vrai qu'il a remboursé devant 3 témoins, mais les 3 témoins n'ont pas plus de force que ce prêteur qui a une valeur de 2 témoins. Et donc, c'est 2 contre 3, mais 2 contre 3, il y a une règle qui nous dit 2 contre 100, ils ont la même force. Et donc, automatiquement, nous ne pouvons pas croire plus l'un que l'autre. Et tout ce que ça aurait aidé de rendre 3 contre 2, c'est seulement à propos des évaluations, pour évaluer quelque chose à peu près, qu'est-ce qu'il vaut. Dans un cas pareil, nous disons que nous allons d'après la majorité des avis. Mais là, nous parlons d'un témoignage, et dans un témoignage, nous n'allons pas d'après la majorité des gens ou la majorité des avis qu'il y a ici. Et donc, nous ne pouvons pas croire aux 3 plus qu'aux 2. La Gemara continue maintenant, nous dit « Aoud et Lishna Achina », il y a une autre façon d'étudier. « Aoud et Amarle le Chavre », quelqu'un qui a dit son ami. Mais Mantli Kebeitre, je te fais confiance comme à 2 témoins. Kol emad de Amat le Parana, chaque fois que tu me diras, je ne t'ai pas payé. Azal ou pari beapetlata, il est parti, il lui a payé devant 3 témoins. Alors quel sera. Et maintenant, le prêteur lui réclame à nouveau. Alors Amar Rav Papa nous dit, Kebeitre emne, Kebeitlata la emne. Il lui a fait confiance comme 2 témoins, mais il ne lui a pas fait confiance comme 3 témoins. Et donc ici, puisqu'il y a 3 témoins qui sont une majorité par rapport à ce prêteur qui a une valeur de 2 témoins, alors, nous croyons les 3 témoins, nous ne croyons pas ce prêteur, et donc il ne sera pas obligé de payer à nouveau sa dette. Matrifla Ravuna Berede Rabbi Yoshua, Ravuna Vido Rabbi Yoshua a posé une question. Trekemer, Omeaketre, il y a un règle qui nous dit que 2 témoins ont la force de 100, et 100 ont la force de 2, c'est-à-dire que par rapport à un témoignage, nous ne faisons pas cas de combien il y a de témoins ici. Et donc, Veille à Marley, puisque nous ne faisons pas cas de combien il y a de témoins, ça ne change pas s'il lui a payé devant 2 témoins, devant 3 témoins ou devant 10 témoins. Parce que ici, nous voyons qu'il y a, dans un témoignage, il n'y a pas de différence entre 2, 3 ou 10. Et donc, ici, il n'y a aucune raison de croire les témoins plus que le prêteur. Par contre, veille à Marley Kebet Lata. Mais si l'emprunteur a dit au prêteur, je te ferai confiance comme 3 personnes, Vazal Paré Berbe Berba. Et il lui a payé devant 4 personnes. Alors, Kevan de Nachit le Deot, Nachit le Deot. Nous disons, puisque cet emprunteur a fait cas du nombre de personnes, car s'il avait voulu dire, je te fais confiance comme 2 témoins, ou comme 3 témoins, nous avons vu que 2 témoins et 3 témoins ont la même force. Alors, pourquoi a-t-il cité ici explicitement 3 témoins? Pourquoi n'a-t-il pas dit 2 témoins? Donc, nous voyons que cet emprunteur, il fait cas du nombre de personnes qu'il y a ici. Donc, puisqu'il fait cas du nombre de personnes qu'il y a ici et qu'après il a payé devant quatre témoins, alors nous disons que les quatre témoins, nous le croyons plus que ce prêteur. Et c'est pour ça qu'il a dit devant trois et qu'il est parti payer devant quatre. La Gemara rapporte un extrait de la Mishnah. En nishbarim al ta'anat cheresh shoteh vekatan. On ne jurera pas sur la réclamation d'un sourd muet, d'un fou, d'un sot et d'un petit qui n'est pas arrivé à la mitzvah. Ven mashbim et akatan, et de même on ne fera pas jurer le petit qui n'est pas encore arrivé à l'âge de la bar mitzvah. Ragma demande maïtama, pour quelle raison on ne jurera pas sur la réclamation d'un katan, d'un petit? Alors Marka, parce que le verset a dit ki ten ish el reu, à propos de ce serment de quelqu'un qui avoue en partie qui n'est en partie, il dit lorsqu'un homme donnera son ami kesef okelim lishmo, de l'argent ou des ustensiles à garder, et il avoue en partie ni en partie, alors celui qui a nié il devra jurer. Alors, de ce verset, par contre, il est dit qu'il faut qu'il y ait un fait de donner, c'est-à-dire que le réclameur ait donné quelque chose et que l'accusé ait pris quelque chose, et après, lorsqu'on le réclame, il avoue en partie et nie en partie. Mais, ve'en etinat katan klum, et il y a une autre qui nous dit que nous ne considérons pas le fait de donner d'un katan, d'un petit, comme étant un fait de donner. Car puisque nous disons, nous considérons que le katan, qui n'est pas arrivé à l'âge de la bar mitzvah, est un peu comme un fou et un peu comme un sourd muet, ces trois personnes-là sont, la Torah les considère comme ça de toute façon, dépourvus d'intelligence, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Donc automatiquement, nous disons que tous leurs gestes ne sont pas considérés comme les gestes d'une personne adulte qui sait exactement ce qu'il fait et qui a l'intention de faire ce qu'il fait. Et donc c'est pour ça qu'automatiquement, lorsqu'un katan, lorsqu'un petit donne un objet, nous ne considérons pas ce fait de donner comme un objet comme étant un fait de donner un objet. Car le katan, c'est possible qu'il ait vraiment voulu donner objet, comme c'est possible qu'il n'ait pas voulu vraiment le donner l'objet. Mais il a donné parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que nous disons « en netinat katan klum ». Ce qu'un petit donne, ce n'est pas considéré comme donner, et de même le fou et de même le sourd muet. Donc moi continue. « Aval nishbaim la katan ou l'ekdesh ». Il rapporte un autre verset de la Mishnah où il est dit « On jurera au katan, c'est-à-dire au petit qui n'est pas arrivé à l'âge de la bar mitzvah, et au ekdesh, aux choses qui sont saintes, qui ont été sanctifiées pour le temple. » La Gemara demande « Vera madrecha » mais tu as dit au début de la Mishnah hein, « En ishbaim al ta'anat shoteh vekatan » On ne jurera pas sur la réclamation d'un fou et d'un petit qui n'est pas arrivé à l'âge de la bar mitzvah. Donc comment pouvons-nous jurer à un petit qui n'est pas arrivé à l'âge de la bar mitzvah? Alors, Rav nous dit, Beba betanat aviv. Ici, nous parlons d'un katan, d'un petit, pas qui est venu et qui a réclamé l'argent qu'on lui doit à lui, mais l'argent qu'on doit à son père. Et donc, dans un cas pareil, d'après Rabbi Elazar ben Yaakov, qu'on nous a expliqué, alors on jurera au petit par rapport à la réclamation qu'il a réclamée de l'argent qu'on doit à son père. Et la Gemara nous dit, Rabbi Elazar ben Yaakov. Et ça va comme Rabbi Elazar ben Yaakov, d'Etania, parce que nous avons appris dans une braïta. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, Pe'amim she'adam nishba al ta'anat atzmo. Des fois, ça arrive qu'un homme jurera sur une réclamation qui s'est réclamée à lui-même. Ketzad, comment cela? Amarlo, si quelqu'un a dit à une autre personne, Mane l'avicha be'adi, je dois amener à ton père, et nous parlons bien sûr que le père est niftar, est déjà décédé, et il a dit, Ve'echalti pras. Par contre, je lui ai déjà rendu pras, c'est-à-dire la moitié d'un mané. Donc il dit, je dois un mané à ton père, mais je lui ai payé la moitié. Donc en fait ici, il y a une réclamation entière de un mané, et il dit, la moitié j'ai rendu, la moitié j'ai pas rendu. Dans un cas pareil, il devra jurer. Pourquoi? Parce qu'il avoue en partie, et nie en partie. Et nous disons, vezeu she nishba al ta'anat atzmo. Et cela est le cas où quelqu'un jure sur sa propre réclamation. Vechachamim omrim, chachamim nous disent, dans un cas pareil, eno ela kemesheva beda. Cette personne-là est considérée comme étant une personne qui ramène un objet perdu. Ou il y a une règle qui nous dit, si par exemple quelqu'un ramène un objet perdu, et le propriétaire de l'objet perdu dit, pourquoi tu me ramènes cet objet? Il y avait plus de choses avec. Par exemple, s'il lui ramène un porte-monnaie dans lequel il y a 50 francs, le propriétaire du porte-monnaie lui dit, pourquoi tu me rends le porte-monnaie avec 50 francs? Il y avait 100 francs dans le porte-monnaie. Alors dans un cas pareil, celui qui ramène l'objet perdu ne sera pas obligé de jurer sur les 50 qu'il nie. Il dit 50, voilà, je te rends, mais 50, j'ai pas trouvé. Alors, sur les 50 qu'il dit qu'il a pas trouvé, il ne sera pas obligé, parce que ça racole. En tout, nous disons qu'une personne pareille a été gentille avec le propriétaire de cet objet. Il a été généreux avec lui, il lui a fait une bonté, il a été bienveillant avec lui, il n'y a aucune raison qu'il ne jure. Et donc ici, c'est la même chose. Cette personne qui est venue et qui est voir cet orphelin et qui lui a dit « Voilà, je dois un mané à ton père, mais je lui ai déjà rendu la moitié », personne ne l'a obligé à aller voir l'orphelin. Il aurait très bien pu ne pas aller le voir. Alors maintenant, puisqu'il est venu le voir de sa propre initiative, nous disons qu'il ne devra pas jurer. Alors Agma demande, alors vers Rabbi Elazar ben Yaakov, d'après Rabbi Elazar ben Yaakov, l'aïtle meshir aveda pato. Quoi, c'est vrai. D'après Rabbi Elazar ben Yaakov, une personne pareille, c'est comme quelqu'un qui rapporte un objet perdu. En tout, qu'il est bienveillant avec autrui. Alors pour quelle raison, à part, hein, nous allons l'obliger à jurer? Non seulement il est bienveillant, mais en plus de ça, maintenant nous l'obligeons à jurer. Pour quelle raison? Alors Agma répondant, Amarav, ici, de quoi parlons-nous? Besheta anokatan. Ici, c'est pas qu'il est venu de sa propre initiative et il a avoué à l'orphelin, mais l'orphelin, le Katan, est venu et a réclamé la dette qu'il devait à son père. Ragma demande Katan, ah bon, c'est le Katan, le petit, a réclamé. Ve'amar, mais toi-même tu as dit, comme nous avons étudié la Mishnah, Enish Baim Altanat Kreshoteve Katan, on ne jurera pas sur la réclamation d'un sourd muet, d'un fou et d'un petit qui n'est pas arrivé à l'âge de la bar mitzvah. Donc ici, pourquoi devrait-il jurer sur la réclamation de ce Katan, de ce petit? Alors, répondant, les olam, ici, toujours nous parlons, Begadol, que, en fait, celui qui a réclamé, c'est un grand. C'est-à-dire, il est après l'âge de la mitzvah, et c'est pour ça qu'on peut jurer à sa réclamation. Damaï, Korole, Katan. Alors, pour quelle raison l'avons-nous appelé Katan, un petit, délégabé, mais il est d'avoir, parce qu'à propos des affaires de son père, Katanou, il est considéré comme étant un petit, qui ne sait pas, et qui ne connaît pas, ce qui se passe avec les affaires de son père. Donc, lorsqu'il est venu, cette personne lui réclamait, nous le considérons comme étant un petit qui ne sait pas qu'est-ce que son père lui a prêté de l'argent, n'a pas prêté de l'argent, etc. Mais en fait, c'est un grand, c'est quelqu'un qui a déjà passé l'âge de la bar mitzvah. Ragma demande, Yahri, si c'est ainsi, Tana Tatsmo, pourquoi Rabbi Elazar ben Yaakov nous a dit que ça s'appelle quelqu'un qui jure sur sa propre réclamation? C'est pas sa propre réclamation. Tana Tacherimi, ici c'est quelqu'un d'autre qui a réclamé, c'est-à-dire c'est ce grand qui est considéré petit qui a réclamé la dette de son père. Ragma répond, non, ici c'est Tanat Acherim Bodat Atzmo. Nous parlons d'un cas où quelqu'un d'autre l'a réclamé, mais lui-même a avoué.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Ragma demande, c'est quoi, ça veut dire quoi cela? Klonami Tanat Acherim Bodat Atzmo. Tous les cas aussi que nous avons cités plus haut, et dans tous les cas où nous disons où il est obligé de jurer, c'est quelqu'un d'autre qui lui réclame, et lui-même qui avoue. Alors pourquoi, ici, ce cas serait-il différent? Alors ma réponse est là, Bédé Rabba Kanfiga. Alors non, nous sommes obligés de dire que la discussion entre Rabbi Elazar ben Yaakov et Rabbanan ne se rapporte pas d'un cas où c'est un grand qui est considéré comme petit qui a réclamé à quelqu'un la dette qu'il devait à son père, mais c'est une autre discussion. Et nous parlons, ils discutent à propos de ce qu'a dit Rabba. Parce que de Amaraba, Rabba a dit, Mipnema Amra Torah, Modeb et Mixat Tatana Ishava. Pour quelle raison la Torah a dit que quelqu'un qui avoue en partie et nie en partie devra jurer sur ce qu'il nie, sur la somme qu'il nie? Parce que, alors là, il commence à expliquer Rabba. Yen Chazaka en Adam Meispana Bifne Balchovo. Il y a une certitude qui nous dit que quelqu'un n'est pas insolent pour nier à son père. À son prêteur. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a prêté de l'argent et donc a été en fait bienveillant avec lui. Et donc celui qui a emprunté n'est pas assez insolent pour venir et nier complètement cette somme que le prêteur lui a prêtée. Ça s'appelle être insolent envers quelqu'un qui lui a fait qui a été bienveillant avec lui. Donc nier complètement, il ne peut pas nier. Vaï bekoule bae delik ferre. Et lui, il aurait voulu nier complètement. Vaï delokafre. Et pourquoi n'a-t-il pas complètement nié? Mishum denomeis. Parce qu'il n'est pas insolent, il a honte d'être insolent, panav bifne balchovo, devant son prêteur. D'un autre côté, obekule ba'el de l'odele. Et d'un autre côté, il aurait voulu avouer complètement. Veille de l'odele, et la raison pourquoi il n'a pas avoué complètement, ishtamute ou de kamishtamet. Il se dérobe de lui, miné de lui, savar, il pense, adava les ouze, jusqu'à que j'ai de l'argent, on part en aller. Et je le rembourserai complètement. C'est pas qu'il ne veut pas le rembourser, mais il dit, maintenant j'ai pas d'argent. Alors je préfère nier. Alors, c'est pour ça que nier complètement, il peut pas. Avouer complètement, il peut pas. Alors, il nie en partie, avoue en partie. Donc, sur une personne pareille, il y a un doute. Alors, Rahmana Amar, Ramesh Voaloué, nous mettons un serment sur lui, c'est-à-dire que nous l'obligeons à jurer, qui Echi Delodele Bekoulé, afin qu'il avoue la somme totale de sa dette. Maintenant, ça, c'est ce qu'a dit Rabba. Alors Rabbi Elazar ben Yaakov savar, Rabbi Elazar ben Yaakov pense, Loshna bo ve Loshna bivno, et non mais il n'y a pas de différence entre le prêteur ou entre le fils du prêteur. Aux deux personnes, l'emprunteur a honte de nier. Il n'est pas assez insolent, il n'est pas insolent pour nier complètement envers quelqu'un qui lui a fait une bienveillance ou envers le fils de quelqu'un qui lui a fait une bienveillance. Et donc, ici, il n'aurait pas pu nier complètement. Donc, c'est pour ça qu'il a avoué en partie. Donc, tu as avoué en partie, et etc. Donc, à nouveau, nous revenons dans le doute que nous avons vu plus haut. Et donc, c'est pour cette raison, Ve'ilkar, la Meshiva Vedaou, c'est pour cette raison qu'il n'est pas considéré comme étant une personne qui ramène un objet perdu où nous disons, il avait la possibilité de ne pas ramener cet objet. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il ne jure pas. Et donc, c'est pour ça qu'ici, il n'avait pas de possibilité de nier complètement. Et donc, c'est pour ça qu'il devra agir sur ce qu'il nie, sur la somme qu'il nie, la partie qu'il nie. Vers Rabbanan, c'est vrai. Par contre, Rabbanan pense, « Befanav odenomeiz » devant celui qui lui a prêté de l'argent, c'est vrai qu'il a honte de nier, parce que cette personne lui a fait de l'argent. « Aval bifne beno » par contre, devant son fils, « Meiz » il est insolent, il n'a pas honte de nier complètement la dette qu'il avait envers son père. « Umidelo » et donc, cette personne ici, puisque c'est le fils qui réclame, il aurait pu être insolent et nier complètement. Umidelomeiz, et puisqu'il n'a pas nié complètement, et il n'a pas été insolent, alors Meshiva Vedaou, nous le considérons comme étant une personne qui ramène un objet perdu. Et en fait, c'est le cas, les deux cas sont exactement les mêmes. Quelqu'un qui ramène un objet perdu aurait très bien pu ne pas ramener cet objet. Donc maintenant, nous disons que puisqu'il le ramène, alors sur l'autre partie qu'il nie et qui dit ne pas avoir trouvé, nous ne l'obligeons pas à jurer. De même, dans quelqu'un, dans ce cas-là, où le fils réclame, puisqu'il aurait pu nier complètement, mais malgré cela, il a quand même avoué en partie, alors nous disons que sur ce qu'il nie, il ne sera pas obligé de jurer. Et donc, ça, c'est la discussion entre Rabbi Elazar ben Yaakov et Rabbanan. Est-ce qu'une personne pareille, qui nie en partie au fils de celui qui lui a prêté, est-il considéré comme étant un Meshiva Veda, quelqu'un qui ramène un objet perdu et ne devra pas jurer, ou non, il ne sera pas considéré comme étant quelqu'un qui ramène un objet perdu et sera quand même obligé de jurer. Alors, c'est donc cela que nous disons, que la Mishnah qui nous dit « Venishbaim le katan » que l'on pourra jurer à un katan, à un petit, ne parlons bien sûr pas de la réclamation d'un petit, mais d'un petit qui est venu réclamer la dette que l'on devait à son père, et comme nous avons vu d'après Rabbi Elazar ben Yaakov, que dans un cas pareil, il devra quand même jurer. Alors la Gemara demande, Mimatit mukmat la ki Rabbi Elazar ben Yaakov. Peut-on dire que la Mishnah va d'après Rabbi Elazar ben Yaakov? Aktan Eresha, mais nous avons étudié au début de la Mishnah, quelqu'un qui a dit à son ami, Mané la babéatra, tu dois un mané à mon père. Et l'autre a nié complètement, l'autre n'a pas nié complètement, a dit, En lecha be, a dit, elachamishim dinar. Non, je ne dois que 50 dinars. Dans un cas pareil, nous avons dit dans la Mishnah, Patour, il est exempt de serment sur ce qu'il a nié. Car il est considéré comme quelqu'un qui ramène un objet perdu. Et donc ça, cela va d'après Rabbanan, pas d'après Rabbi Elazar ben Yaakov. Parce que Rabbi Elazar ben Yaakov nous a dit que quelqu'un qui vient réclamer la dette de son père, c'est comme s'il venait réclamer sa dette même, et la personne sera passible de serment sur la somme qu'elle a niée. Et nous voyons dans la Mishnah qu'il est exempt de serment. Alors ma réponse, non. Atam, là-bas, dans le début de la Mishnah, de l'Omar Barili. Nous ne parlons pas d'un cas où le réclameur, le fils de ce prêteur, a dit « Je suis sûr que tu dois à mon père. » Mais il était en safek, il était en doute. « Je crois que tu dois à mon père une telle et telle somme. » Dans un cas pareil, même Rabbi Elazar ben Yaakov est d'accord que l'emprunteur n'a pas honte de nier complètement et de dire « Non, non, je ne dois rien. » Même si en fait il doit. Il n'a pas honte et il est insolent et il peut nier complètement. Alors, donc nous disons que puisqu'il aurait pu nier complètement, et s'il n'a pas nié complètement, il a quand même avoué en partie, alors il est considéré comme étant quelqu'un qui ramène un objet perdu, et nous n'obligeons pas à jurer. Ah, voilà, mais chez nous, dans notre cas, de Amar Barili, nous parlons ici que le fils a dit, je suis sûr que tu dois à mon père. Alors, dans un cas pareil, c'est sûr qu'il devra jurer d'après Rabbi Elazar ben Yaakov. Donc, la première réponse de la Gemara, comment expliquer, Venishbaim le katan, et on jurera un katan, un petit, nous parlons d'un cas où, comme Rabbi Elazar ben Yaakov, où c'est un katan qui vient réclamer une dette de son père, et il devra quand même jurer, il ne sera pas considéré comme quelqu'un qui ramène un objet perdu. Shmuel Amar, Shmuel nous dit, ce qu'avons-nous dit, on jurera un petit, les katan, l'ipara minir se katan. Si on veut récupérer une dette des biens d'un katan, d'un petit, comme si par exemple, dans le cas où J'ai prêté de l'argent au père de ce katan, et ce père est décédé. Maintenant, je veux que le katan, ce petit, me paye ma dette, me paye la dette de son père. Alors, je ne pourrai, et j'ai un contrat, bien sûr, une reconnaissance de dette, alors je ne pourrai récupérer ma dette que si je jure que je n'ai pas encore encaissé cette dette de retour. Et l'Egdesh, de la même chose, l'Egdesh, si je veux, l'Egdesh, c'est-à-dire au bien qui ont été sanctifiés du temple, c'est pas que je jure au bien qui ont été sanctifiés du temple, mais les paramenirs l'Egdesh. Si je veux me faire payer des biens qui ont été sanctifiés au temple, alors dans un cas pareil, je serai passé de serment. Comme par exemple, si j'ai fait emprunter de l'argent, si j'ai prêté de l'argent à monsieur Intel, et monsieur Intel après a sanctifié tous ses biens, il a dit je les donne tous au temple. Puis après, lorsque moi je viens lui réclamer ma dette, il me dit je n'ai plus rien. Alors à ce moment-là, ces biens ont déjà été hypothéqués à mon prêt. Alors maintenant, j'ai le droit de récupérer mes biens du Hekdesh. Mais si je veux, j'ai le droit de récupérer ma dette du Hekdesh, des terrains qu'il a donné au temple. Alors maintenant, nous disons, mais si je veux récupérer ma dette de ces terrains-là, je serai quand même avant passible de serment. Ahmad dit, les katan, les paraminirse katan. Toi, qu'est-ce que tu m'as dit? Que ça veut dire quoi à un petit si je veux me faire payer des biens d'un petit? Tanina, nous avons déjà appris cela dans une Mishnah. Minirse yetomim lo yipara el abishua. Si quelqu'un veut se faire payer des biens des orphelins, il ne se fera payer que par serment. C'est-à-dire, c'est le cas que nous avons cité. Si par exemple, quelqu'un avait une dette et il est décédé. Alors maintenant, le prêteur veut récupérer sa dette des orphelins. Le prêteur ne pourra se faire payer sa dette que par serment. Tart et la mali. Alors pourquoi avons-nous eu besoin de dire cela deux fois? Alors l'agma nous dit, akamashmanan. Ça vient nous apprendre qu'il y a des abaye kshiche. Ce qu'abaye l'ancien nous a enseigné, des tane, abaye kshiche. Parce que nous avons appris, abaye kshiche a dit, yetomim shamru, les orphelins que nous avons dit, que nous avons cités dans la Mishnah plus haut, que si quelqu'un veut se faire payer des orphelins, Gedolim, nous parlons des orphelins qui sont grands, c'est-à-dire qui sont après l'âge de la bar mitzvah, Ve'en tzarich lomar ktanim, et nous n'avons pas besoin de dire si ce sont des petits, que c'est sûr que si on veut se faire payer de ces orphelins, on sera passible de serment. Ben les chevois, que ce soit pour le serment, qu'on sera obligé de jurer, ben les iborites, que ce soit pour la deuxième règle qui nous dit que lorsqu'on vient récupérer une dette de quelqu'un qui est décédé, et on vient la récupérer des orphelins, alors on ne pourra pas prendre le meilleur terrain, mais on devra prendre seulement le terrain le plus maigre, le plus petit, celui qui a de moindre valeur. Et donc, et ça c'est la deuxième règle, alors nous disons que ce soit des orphelins grands ou que ce soit des orphelins petits, si on vient se faire récupérer la dette des orphelins, alors on sera passible de serment et on ne pourra le prendre que du terrain de moindre valeur. Et donc c'est pour ça que nous avons dit deux fois, pour nous enseigner que ce soit et pour les grands et pour les petits. La Gemara continue nous dit, les Hekdesh, comme on nous dit, pour les Hekdesh, ça veut dire quoi? Si aux biens qui ont été sanctifiés du temple, les paraminirse Hekdesh, si on veut se faire payer une dette des biens qui ont été sanctifiés au temple, et nous parlons bien sûr des biens qui ont été hypothéqués avant à une dette précédente. Alors la Gemara demande, hein, Tanina, cela nous avons déjà appris. Minechasim mishobadim loy paru el abeshuvah. Si quelqu'un veut se faire payer des biens hypothéqués, il ne pourra se les faire payer que par serment. C'est-à-dire, si Monsieur Reuven a une dette à Monsieur Shimon de 100 000 francs, mais maintenant Monsieur Reuven a hypothéqué tous ses biens pour cette dette, à cette dette, et Monsieur Reuven a vendu ses biens. Donc maintenant, il n'a plus d'argent, mais ses biens étaient déjà hypothéqués. Il a de l'argent, il n'a plus de biens. Et après, il s'avère qu'il a perdu l'argent qu'il a gagné aussi. Et lorsque M. Shimon veut venir récupérer sa dette, alors M. Reuven lui dit, non, je n'ai plus rien. Alors M. Shimon a la possibilité d'aller chez les acheteurs de M. Reuven et de leur dire, écoutez, voilà, c'est vrai que vous avez acheté ces terrains, c'est bien, mais ces biens étaient hypothéqués à ma dette, donc maintenant vous devez me donner ces biens pour le remboursement de la dette de M. Reuven, et vous allez vous arranger avec M. Reuven après pour récupérer votre argent, etc. Donc ça s'appelle récupérer des biens hypothéqués. Alors la Gemara nous dit que dans un cas pareil, l'oï paru el abishvoua, si M. Shimon veut récupérer sa dette de biens hypothéqués, il ne pourra le faire que par serment, c'est-à-dire il devra jurer aux acheteurs, « Monsieur Rouven me doit tant et tant et ne m'a pas payé. » Et donc la Gemara demande, « Ou mali meshubadim les idiotes ?» Et quelle différence ils ont été hypothéqués à des idiotes, c'est-à-dire à des gens qui ne sont pas saints, hein, à des gens qui ne sont pas Cohen, « Ou mali meshubadim les gavois ?» Ou quelle différence ils ont été hypothéqués à gavois, c'est-à-dire à la sainteté. C'est-à-dire, ici, nous parlons bien sûr au temple. Et donc ici, si par exemple, Monsieur Rouven n'a pas vendu ses biens à des acheteurs, mais il les a sanctifiés au temple, il les a donnés au temple. C'est sûr que si M. Shimon voudra récupérer ses biens, il devra le faire par serment. Et donc pourquoi avons-nous besoin de le dire encore à nouveau dans la Mishnah ? Ramanou de Itzer, nous avons besoin. Salka da'ata ramina, j'aurais pu penser dire idiot ou da'adam oseknouni aledot. Il arrive que quelqu'un, les hommes, font des conspirations avec ses amis. Par exemple, un cas où monsieur, dans le cas où nous avons cité, nous pourrons dire tout simplement que Reuven rembourse sa dette à Shimon en secret, mais officiellement il dit « Je n'ai pas d'argent, je ne t'ai pas remboursé la dette ». Shimon alors va automatiquement récupérer les biens hypothéqués, il récupérera les biens hypothéqués, et alors à ce moment-là, Reuven et Shimon feront moitié-moitié dans les biens hypothéqués, c'est-à-dire que Reuven gagnera d'avoir récupéré la moitié de ses biens, et Shimon a déjà récupéré sa dette, et à part cela, il récupère la moitié des biens hypothéqués en plus à cause de cela. Et lorsque les acheteurs vont venir chez Monsieur Reuven lui dire « Rends-nous l'argent », il leur dira « Je n'ai pas d'argent, je vous dois rien. Vous avez acheté un champ, vous savez très bien que ce champ était hypothéqué, c'est un risque à prendre, vous avez pris ce risque, maintenant je ne vous dois plus rien. » Aval Ekdesh, mais dans le Ekdesh, dans les choses saintes. Alors c'est pour cela que, avant Ekdesh, avant les choses saintes, c'est pour cela que nous disons que dans idiotes, dans les gens normaux, c'est-à-dire pas les choses saintes, les choses non saintes, les gens non saints, alors nous obligeons un serment. Aval Ekdesh, mais dans les choses saintes, Dehen Adam Oseknounia al Ekdesh, que les gens ne font pas de conspiration sur le compte des choses saintes. Alors j'aurais pu penser qu'il n'y a pas besoin de serment. Kamash Malan, c'est cela que ça vient nous apprendre, que quand même nous craignons qu'il y ait ici une conspiration quelconque, et c'est pour cela qu'elle devra quand même jurer. La Gemara demande, ah bon, nous craignons qu'il y ait une conspiration. Ve'amar Ravuna, Aré Ravuna a dit, Shriv Mera Shigdish Kol Nechasa, un Shriv Mera qui a sanctifié tous ses biens, qui a dit, je donne tous mes biens au temple. Ve'amar, il a dit, mais, Manele Ploni Be a dit, je dois un mané à Monsieur Ploni, alors Neyman, on le croit. Pourquoi? Chazaka en Adam Oseknounia Alekdesh. Nous avons une certitude que quelqu'un ne fait pas de conspiration sur le compte du Ekdesh des choses saintes. Et donc ici, c'est pour ça que nous ne disons pas que ce qu'il a dit, mané les plonib, il a dit, je dois un mané à monsieur Intel, c'est pas parce qu'il ne voulait pas le donner au Ekdesh, mais c'est tout simplement parce que vraiment, il le devait. Alors nous voyons ici explicitement que c'est écrit que nous ne craignons pas de conspiration sur le compte du Ekdesh des choses saintes. Alors Amré, les élèves ont répondu, Han emile shrimer. Dans quel cas nous ne craignons pas qu'il fasse une conspiration dans quelqu'un qui est mourant, Den Adam Rotevelolo, car quelqu'un ne fait pas de faute lorsqu'il n'y gagne rien. Et ici, ce Shriv Mera, cette personne mourante, il ne va pas fauter et dire, non, donner un mané et donner un mané à monsieur Intel, alors qu'en fait, il doit le donner avec Desh, aux choses saintes, et il va fauter, et lui, il ne va rien gagner s'il fait cela. Alors, quelqu'un qui est mourant, nous disons, il n'y a pas de crainte de conspiration. Aval, Gabé, Bari, mais à propos de quelqu'un qui est en bonne santé, Vadaï, Hashinan, c'est sûr que nous craignons qu'il fait des conspirations, même sur le compte des choses saintes. La Mishnah nous dit, et voici les choses sur lesquelles on ne jurera pas, même s'il a avoué en partie et nié en partie. Avadim, des serviteurs, nous parlons ici bien sûr des serviteurs non juifs, Evet Knaani, des serviteurs Knaani, Ve'ashtarot, ou alors s'il lui a donné des contrats, il lui dit tu dois me rendre deux contrats, il lui dit non, je dois te rendre que un, c'est-à-dire des contrats, bien sûr, nous parlons d'une réclamation de dette, Ve'akarkaot, ou alors des biens immobiliers. Il lui a dit, je t'ai prêté deux champs. Et l'autre, il lui dit, non, tu m'as prêté qu'un. Alors, sur le deuxième, il ne devra pas jurer. Avec des choses et sur les choses qui ont été sanctifiées. Et maintenant, la Mishnah continue, nous dit. Et sur toutes ces choses-là, en baim tashlome kefel. Si quelqu'un a volé une chose parée de son ami et il s'est fait attraper, il ne devra pas payer kefel. Il y en a qui nous dit que chaque voleur doit payer le double lorsqu'il se fait attraper. Mais s'il a volé une de ces choses-là, il n'aura pas besoin de payer le double. Velo tashlome arba vechamisha. Il y a une autre règle qui nous dit que si quelqu'un a volé du gros ou du menu bétail de son ami et l'a abattu, c'est-à-dire il lui a fait la shechita, l'abattage rituel, ou l'a vendu, alors il devra payer, suivant si c'est du gros ou du menu bétail, 4 ou 5 fois la valeur de ce qu'il a volé. Alors nous disons que dans un cas pareil, s'il a volé les choses citées plus haut, il n'a pas besoin de payer 4 ou 5 fois. Shomer Hinam, un gardien bénévole, s'il a gardé une de ces choses-là et qu'il a perdu, et non Nishba. Bien que dans un cas pareil, s'il a perdu, il devra jurer qu'il n'a pas fauté et qu'il a gardé comme il faut, dans un cas pareil, il ne devra pas jurer. Nosé Sachar, un gardien qui prend un salaire, un gardien salarié. Alors dans un cas pareil, dans un cas normal, s'il garde quelque chose et qu'il l'a perdu, il devra payer l'objet qu'il gardait. Mais s'il gardait une de ces choses-là, et non Meshalem, il n'aura pas besoin de payer. Dans la Gemara, bien sûr, nous allons expliquer d'où nous apprenons chaque chose. Rabbi Shimon nous dit, Kadashim Shekhaya Bachayutan, si ce sont des Kadashim Shekhaya Bachayutan, des Kadashim, c'est-à-dire des korbanot, des sacrifices qu'il est obligé de remplacer, et Nishbaim Alem. Alors à ce moment-là, on pourra, oui, jurer dessus. Et des sacrifices qu'il n'est pas obligé de remplacer, on ne jouera pas dessus. C'est-à-dire, il existe des sacrifices qu'il est obligé de remplacer et des sacrifices qu'il n'est pas obligé de remplacer. Et le cas typique, quelqu'un qui a dit, je veux offrir cette vache spécifiquement comme sacrifice au temple. Si cette vache est morte, cette vache a été volée, cette vache a été perdue, alors il n'est pas obligé d'amener une autre vache. Mais s'il a dit, je veux offrir une vache au temple, et il a décidé de prendre celle-là. Puis après, il s'avère que cette vache a été volée, perdue ou est morte. Alors, il devra ramener une autre vache. Donc ça, c'est la différence entre les sacrifices qu'il est obligé de remplacer ou les sacrifices qu'il n'est pas obligé de remplacer. Alors, Rabbi Shimon nous dit, si un gardien gardait un sacrifice. Alors, si c'est un sacrifice qu'on est obligé de remplacer et qu'il a été perdu, alors on jurera sur ce sacrifice. Pourquoi ? Parce que maintenant, puisqu'il a perdu, il a fait perdre de l'argent au propriétaire de cette vache. Pourquoi ? Parce que maintenant, le propriétaire doit amener une autre vache à la place de celle-ci. Mais si c'est un sacrifice qu'on n'est pas obligé de remplacer, comme si par exemple il a dit cette vache spécifiquement, et cette vache a été perdue, alors si le gardien a perdu la vache, il ne sera pas obligé de la remplacer. Rabbi Meir nous dit, Yesh devarim she'en bakarka, il y a des choses qui sont en terre, c'est-à-dire qui sont raccrochées au par terre, et donc qui apparemment sont considérées comme des biens immobiliers, ve'enan kekarka, mais ils ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. C'est-à-dire que bien qu'apparemment, ils devraient être considérés comme des biens immobiliers, ils ne sont pas comme des biens immobiliers. Comme par exemple, ve'en chachamim odim, lo chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Ketzad, comment cela? Eser gefanim teronot masarti lecha. Si quelqu'un réclame à son ami, je t'ai donné 10 vignes pleines de fruits. Elles étaient pleines de fruits quand je te les ai données. Ben alors, mère, et l'autre lui répond, non, elle en est la chamèche. Non, tu m'as donné que 5 vignes à garder. Alors, Rabbi Meir nous dit que dans un cas pareil, il sera passible de serment sur les 5 autres vignes qu'il a niées. Ben, Chachamim nous disent, kol amechubar la karka, chaque chose qui est rattachée au parterre, Areo Kekarka, il est considéré comme étant le parterre en lui-même, c'est-à-dire considéré comme un bien immobilier. Et donc, il y a la règle que nous avons étudié plus haut, on ne jure pas sur les biens immobiliers. La Mishnah continue, nous dit, En Nishbaim, Ela Aldavar, Sheba Mida, Besheba Mishkal, Besheba Minyan. On ne jurera seulement sur les choses qui ont une mesure, ou un poids, ou un compte. Ketat, comment cela? S'il lui a dit, Bait Male Masarti Lecha. Je t'ai donné une maison pleine de fruits, par exemple. Ou vekis male masartilecha. Ou je t'ai donné une poche pleine d'argent. Ve alors, mère, et l'autre lui dit, eni yoda. Non, je ne sais pas. Et la mâche in arta à ta notel. Ce que tu m'as donné, récupère-le. Dans un cas-là, pato. Il sera exempt de serment sur ce qu'il nie. Parce qu'ici, il n'y a pas une mesure spéciale. Il lui dit, je ne sais pas. Ce que tu m'as donné, je te le rends. Il lui rend, par exemple, la moitié d'une maison. Mais il ne lui dit pas, je te rends la moitié, je te rends cela, etc. Dans un cas pareil, puisqu'il n'y a pas de mesure, il sera exempt. Mais s'il lui dit, Zéomer Adazil, celui-là a dit jusqu'à la poutre là. Zéomer Adachalon, il lui dit, non, tu m'as donné que jusqu'à la fenêtre. C'est-à-dire, il discute. Toi, je t'ai donné une maison à garder, elle était pleine de fruits jusqu'à la poutre. Il lui dit, non, ce que tu m'as donné à garder, c'était plein de fruits, mais que jusqu'à la fenêtre. Alors dans un cas pareil, Chayab sera passé de serment sur ce qu'il dit, parce qu'ici il y a une mesure. Lui il dit jusqu'à la poutre, l'autre il dit non jusqu'à la fenêtre. La Gemara commence à nous expliquer chaque cas que nous avons vu plus haut, pour quelle raison il était exemple. Alors, Tashlomé Kefel, pour quelle raison si quelqu'un a volé un éved, un serviteur ou un contrat ou une reconnaissance de dette, par exemple, ou un bien immobilier ou quelque chose de saint, il ne sera pas passible, lorsqu'il se fait attraper, de payer une amende et de payer le double de ce qu'il a payé. Minalan, d'où l'apprenons-nous? D'Etanou Rabbanan, parce que nous avons appris à propos du voleur, alcool devar pécha, sur chaque chose sur laquelle il aurait fauté. Et ça, c'est klal, c'est quelque chose qui vient, qui nous regroupe tout, qui inclut tout ensemble. Puis après, il y a al-shor, al-chamor, al-se, al-salma, sur un taureau, un âne, un agneau ou un habit. Alors, prat, là, la Torah nous a dit citer des cas particuliers. Puis après, la Torah nous a dit al-kol aveda, ou sur chaque chose qui aurait été perdue. Donc, chazar bekalal, la Torah est venue et nous a tout regroupé à nouveau. C'est-à-dire, nous avons d'abord un groupe, tout groupé, puis après nous avons cité des cas particuliers, puis après nous avons cité à nouveau un groupe, al-kol aveda, c'est chaque chose, sur chaque chose qui est perdue. Alors ça, c'est klal ou prat ou klal, un groupe, puis des cas particuliers, puis à nouveau un groupe. Alors nous disons, iatadan, et là, kien aprat. Nous disons que le groupe doit ressembler au cas particulier. Et ma aprat, me fourrage d'avoir un métal tel, vegoufo mamon. De même que le prat, les cas particuliers qui ont été cités, c'est explicitement quelque chose qui est mobilier et qui a une valeur financière en elle-même. Afkol d'avoir un métal tel, vegoufo mamon. De même, dans tout le groupe est inclus seulement les choses qui sont mobilières et qui ont une valeur financière en elles-mêmes. Et donc, Yatsu Karkaot, ça nous exclut les biens immobiliers, car ils sont immobiliers et ne sont pas mobiles. Yatsu Avadim, ça vient nous exclure les serviteurs, Sheokshu les Karkaot, car ils ont été juxtaposés pour toutes leurs lois aux biens immobiliers, et nous disons qu'ils ont les mêmes lois. Yatsu Shtarot, ça vient nous exclure les contrats, Shafal Pishen Mitaltenim, car bien qu'ils sont mobiles, c'est quelque chose de mobile qu'on peut bouger, Aval En Gufan Mamon, ils n'ont pas une valeur financière en eux-mêmes, mais ils peuvent juste entraîner qu'on récupère une dette ou un bien. Et donc c'est pour ça que sur toutes ces choses-là, il ne devra pas payer une amende du double. Et pourquoi sur les choses saintes, il ne devra pas payer le double? Réhéo Ketiv, il est écrit qu'il devra rendre à son ami. Et Egdesh, bien sûr, ce n'est pas son ami. La Gemara continue, nous dit, Velo Arba Vechamisha, il ne devra pas payer aussi l'amende de 4 ou 5 fois dans le cas où il a battu ou vendu. Agma demande Maïtama, pour quelle raison il ne devra pas payer cette amende? Agma nous dit, Tashlame Arba Vechamisha Marachmana. La Torah a dit qu'une personne devra payer 4 ou 5 fois. Velo Tashlame Shlosha Verba. Et pas 3 ou 4 fois. Et il faut savoir que cette amende de 4 ou 5 fois est construite de plusieurs choses. D'abord, il y a le keren, le capital, c'est-à-dire première chose qu'il a volé. Puis, il y a l'amende du double de chaque voleur. Puis, à cela, on rajoute deux ou trois fois l'amende pour quelqu'un qui a tué ou qui a abattu l'objet volé ou qui l'a vendu. Et puisque nous avons dit que l'amende du double, il ne la payera pas, donc automatiquement, il y a une fois la valeur de l'objet volé qu'il ne devra pas payer. Donc, il ne payera pas 4 ou 5 fois, mais 3 ou 4 fois. Et 3 ou 4 fois, ça, la Torah a dit qu'il ne paye pas. Il doit payer 4 ou 5 fois, mais pas 3 ou 4 fois. Nous avons fini le shiur de Daf Mem Bet. Nous commençons le shiur de Daf Mem Gimel. Nous sommes Daf Mem Bet, Amud Bet, dernière ligne. La Gemara rapporte un extrait de la Mishnah. Shomer Chinam Eno Nishba. Un gardien bénévole ne jurera pas sur tous ces objets que nous avons cités dans la Mishnah, c'est-à-dire les avadim, les serviteurs, shtarot, les contrats ou les reconnaissances de dette, karkaot, les biens immobiliers, et gdeshot, les choses saintes. C'est-à-dire, si un gardien a gardé une de ces choses-là et l'a perdue, alors dans un cas normal, lorsqu'il perd quelque chose, il devra jurer qu'il a perdu et qu'il n'a pas fauté dans la garde, mais ici, il ne jurera pas. Agma demande Mina Nemile, d'où l'apprenons-nous? D'Etanou Rabbanan, parce que nous avons appris.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.